Bonjour à vous. C'est un plaisir de vous retrouver cet après-midi pour cet atelier où nous parlerons d'un thème qui n'est pas forcément le plus populaire, mais enfin quand même, je crois qu'il vaut la peine d'être abordé. La théologie. Procéderons en trois parties, une courte partie introductive pour rappeler un certain nombre d'éléments de définition que vraisemblablement vous connaissez, mais peut-être il est bon quand même de le rappeler. Une première partie que je prendrai à charge qui concernera plutôt la théologie systématique, alors pas uniquement, mais essentiellement la théologie systématique, et puis une deuxième partie où c'est James Ely Hutchinson qui prendra la suite pour une deuxième partie concernant la théologie biblique plus particulièrement. Voilà. Alors, commençons par quelques mots d'introduction, de rappel, de définition. De quoi parle-t-on quand on parle de théologie? Comment définit-on ce domaine? Bien, d'abord dire que c'est un terme qui n'est pas spécifiquement chrétien. Ça, on a l'habitude que ce soit chrétien, mais à l'origine, ce n'est pas chrétien. C'est Platon et Aristote déjà qui l'avaient employé en leur temps dans leur discours sur les divinités. Les pères de l'Église entendaient par théologie la science de Dieu, de la personne de Dieu, c'est tout particulièrement le mystère trinitaire qui était concerné. Et un peu plus tard, la définition s'est élargie au Moyen Âge, et on entend par théologie la science de Dieu avec ce qu'il a créé, particulièrement dans sa relation avec l'univers. Donc, concept un petit peu plus large. D'une certaine manière, on est tous théologiens parce que tous les chrétiens connaissent Dieu, parlent de Dieu et ont une théologie, même s'ils ne le conçoivent pas comme discours académique, mais de fait, on a tous un discours sur Dieu et une compréhension de sa relation avec l'univers dans lequel il nous a placés et dans lequel nous vivons. Maintenant, d'un point de vue académique, puisque c'est ça qui va nous intéresser cet après-midi, le domaine de la théologie se subdivise en plusieurs disciplines qu'on peut distinguer. Et je ne vais pas faire la liste de toutes les disciplines, je vais en citer quelques-unes. Une première manière de faire de la théologie, c'est ce qu'on appelle la théologie exégétique. Et comme vous pouvez sans doute le deviner d'après le nom, c'est l'exégèse des textes bibliques en eux-mêmes qui est pris en considération avec toutes sortes de problèmes de manuscrits, parfois, de linguistique, bien sûr, ça suppose qu'on connaisse bien les langues bibliques, l'hébreu, le grec, etc. Mais on est au ras du texte. C'est ça, là, la considération, ce qu'on considère, c'est le texte biblique en lui-même. Et puis, on peut prendre du recul, et ça donne lieu alors à une autre discipline dans le domaine de la théologie, c'est la théologie biblique. Et là, j'emprunte la définition à mon confrère qui a bien voulu me la fournir, et je suis reconnaissant de cela. La mienne n'aurait pas été tout à fait exacte, je pense, mais voilà. Donc, je cite, « C'est la théologie du déroulement de l'histoire du salut telle qu'elle émerge d'une lecture inductive et progressive des livres bibliques dans leur ordre canonique. » Et tous les éléments de la définition ont une importance, mais c'est James qui nous en parlera tout à l'heure. Autre discipline dans le domaine de la théologie, c'est la théologie historique. C'est dans cette discipline qu'on s'intéresse comment les différents courants ou pensées théologiques se sont développés dans l'histoire de la pensée chrétienne, dans l'histoire de la théologie. Comment ça se fait qu'à tel moment, on a mis en avant la doctrine du salut? Et de telle manière, pourquoi en parle-t-on de telle manière et pas d'une autre? Et c'est parfois très intéressant de savoir comment la pensée s'est développée, dans quel contexte, pour quelles raisons, et parfois en polémique avec qui, mais on reviendra un petit peu sur cela plus tard. Autre discipline, c'est la théologie pratique, bien sûr. C'est la réflexion à propos de la pratique pastorale dans l'Église, aussi bien communautaire qu'individuelle. On va par exemple réfléchir à la scène, tout ce qui touche autour de la compréhension et comment la gérer, etc. Puis, il y a la discipline d'autres disciplines qui prolongent la théologie dans l'apologétique. C'est toute la discussion pour défendre la cohérence de la foi chrétienne à un auditoire, à un public qui n'est pas forcément convaincu qu'il s'agit de convaincre du bien fondé et de la logique chrétienne ou de l'éthique, etc. J'arrête là, je pourrais encore ajouter l'un autre élément, mais je m'arrête là pour la liste. Dernière remarque, et puis j'en aurai fini avec la partie introductive, c'est que toutes ces disciplines qui peuvent vous paraître un petit peu comme ça, des compartiments étanches, en réalité, doivent être en dialogue les unes avec les autres. Par exemple, la théologie systématique, dont je n'ai pas parlé, il faut quand même que je la définisse. La théologie systématique, c'est la partie de la théologie qui s'occupe du traitement thématique de l'Écriture et qui met en rapport ces différents thèmes pour en former un ensemble qui soit cohérent, compréhensible et, si possible, transmissible. Alors donc, la théologie systématique, qui opère des synthèses, a besoin de la théologie exégétique. Elle a besoin de s'assurer de la compréhension de chacun des textes bibliques qu'elle utilise pour forger sa synthèse. Mais elle a aussi besoin, absolument besoin, de la théologie biblique pour, dans sa réflexion de synthèse, ne pas mettre au même rang une référence qui vient de la Genèse, avec une autre qui vient des Psaumes, avec une troisième qui vient d'Ésaïe et une quatrième qui vient de l'Apocalypse, peut-être. Toutes ces références ont un ordre chronologique et sont un autre moment de la révélation. Et la théologie systématique a besoin de la théologie biblique pour bien prendre toutes ces choses en considération. Et puis, la théologie systématique aussi est questionnée par l'apologétique, par l'éthique. Quelles sont les questions qui se posent et comment, quel apport devrait avoir la théologie systématique pour fournir un cadre plus large, peut-être plus global, à d'autres disciplines qui sont en dialogue avec les problèmes concrets des chrétiens dans les églises ou des questions posées par la société, par exemple dans un domaine plutôt apologétique. Voilà, très rapidement, ce thème en lui-même pourrait remplir toute une après-midi de voir comment les différentes disciplines théologiques discutent entre elles. Jusque-là, l'introduction. Je passe maintenant à ma première partie qui concerne la théologie, plus particulièrement la théologie systématique. Lorsque vous entendez le mot « foi », à quoi pensez-vous ? J'imagine qu'assez rapidement, c'est le terme de confiance qui vous vient à l'idée. Et effectivement, bien souvent, dans le Nouveau Testament en particulier, le mot « foi » est employé dans le sens de confiance, faire confiance à Dieu, tout spécialement. Alors c'est vrai, par exemple, quand il s'agit du salut, je cite un exemple concernant l'apôtre Paul qui dit dans Romains 3, 28, en l'opposition foi et œuvre, l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Donc, on parle ici, quand on parle de foi, de la foi du sujet, la confiance que le sujet fait à Dieu et à sa parole. Mais un certain nombre de fois, dans le Nouveau Testament, le mot foi n'exprime pas un élan subjectif du cœur vers Dieu, mais un contenu objectif. On parle non pas du fait de croire, mais de ce qu'on croit. Être croyant est une bonne chose, mais ça ne suffit pas. D'une certaine manière, tous les humains sont croyants, croient en quelque chose. Mais la foi chrétienne a aussi un contenu, et c'est de ce contenu que la théologie systématique s'occupe. Alors, pas seulement elle, bien sûr, mais entre autres, elle. Et je voudrais vous proposer maintenant 6 expressions où le mot « foi » est employé, mais dans son sens objectif, c'est-à-dire dans le contenu de ce qu'on croit et non pas dans le fait de croire. Est-ce que la différence fait sens ? Oui ? D'accord, merci d'acquiescer, c'est gentil. Alors, première expression que je vous propose, et c'est Jude qui nous la livre dans son verset 3, où Jude parle de la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Alors, ce qui est ici transmis aux saints, ce n'est pas une attitude de confiance, c'est un contenu. C'est un ensemble de vérités, de doctrines, qui sont transmises aux saints, aux croyants, une fois pour toutes. Et puisque cette foi est transmise au sein une fois pour toutes, elle est à la fois un socle pour l'Église, elle doit s'appuyer là-dessus, et puis à la fois une responsabilité de l'Église de ce que cette foi qui lui a été transmise une fois pour toutes
ce corps de vérité qui lui est transmis une fois pour toutes, soit transmis à sa génération et à la génération suivante. C'est une nécessité absolue. Dans sa grâce, Dieu a veillé sur cela durant l'histoire de l'Église pour que toujours à nouveau, il y ait des hommes fidèles à cette foi transmise une fois pour toutes pour qu'elle arrive jusqu'à nous. Confesser sa foi est une bonne chose. Avoir le courage de dire « je crois en Jésus-Christ » est une bonne chose. Mais encore faut-il avoir une confession de foi, un contenu qui soit biblique, enraciné dans l'Écriture et qui fait sens. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours le cas dans nos églises. Une des choses qui me frappe, par exemple, c'est lorsque j'entends des témoignages lors de baptême, où très souvent, alors peut-être c'est particulier à mon expérience, je veux bien le croire, je ne discuterai pas au-delà de ce que je connais, mais où ce qui me frappe, c'est que bien souvent, dans ce témoignage, ce qu'on entend, c'est un cheminement, c'est une expérience avec Dieu, parfois des choses extraordinaires, parfois plus banales, mais je suis frappé par le peu de contenu formel, de vérité, de compréhension, de vérité biblique qu'on trouve parfois dans les témoignages. On sait que celui qui se fait baptiser est croyant, mais on a parfois du mal à dire, mais au fond, qu'est-ce qu'il croit vraiment ? Quelles sont les vérités bibliques qu'il s'est appropriées et qui appuient sa demande d'être baptisé ? J'aimerais savoir parfois un peu plus. Je suis parfois un petit peu frustré de ce côté-là. Et je trouve que nous devrions réfléchir à cela. Deuxième expression que je propose pour notre expression, c'est l'expression l'analogie de la foi. Alors, cette expression se trouve chez Paul, cette fois-ci, au chapitre 12, dans son verset 6, à propos des prophètes. Mais une remarque précédente, avant cela. Quand vous allez faire vos courses, peut-être vous faites une liste de courses. C'est-à-dire, vous écrivez un en dessous de l'autre, différentes choses que vous ne voulez pas oublier et que vous devez acheter. Mais vraisemblablement, il n'y a aucun rapport entre le premier élément sur la liste, les carottes, le deuxième du savon, le troisième des choux, etc. Et puis vraisemblablement aussi, votre liste n'est pas classée par ordre d'importance. C'est comme ça vient dans votre souvenir. Ça, ce n'est pas de la théologie systématique. Ça, ce sont juste des éléments qui sont mis l'un derrière l'autre. Les devoirs des étudiants parfois ressemblent à la liste de courses, mais bon, voilà, ça c'est encore une autre histoire. Mais ce sont juste des pensées qui peuvent être vraies, qui sont mises les unes derrière les autres, mais qui ne sont pas organisées. On ne sait pas ce qui est important, on ne sait pas ce qui n'est pas important. Ouais, je vois une étudiante qui proteste. Bon, d'accord, avec mes excuses, hein. Désolé. Nous réglerons ça plus tard. Cette liste de courses n'est pas organisée et la foi des croyants ressemble parfois à une liste de courses désorganisée où il y a plein de choses vraies, mais on ne sait pas ce qui est important et on ne sait pas quel est le lien entre ces différentes vérités. Il se peut que cette expression, l'analogie de la foi, une expression un peu difficile à traduire parce que le mot grec pour analogie n'est employé qu'une seule fois dans le Nouveau Testament et à cet endroit-là, donc on peut discuter. Mon point de vue est relatif, je l'admettrai volontiers. Mais c'est peu que cette expression que Paul emploie ici, l'analogie de la foi, fait référence aux grandes nervures, aux grandes vérités de la foi chrétienne auxquelles les prophètes doivent soumettre leur prise de parole. Quand les prophètes parlent, il faut que ça soit selon l'analogie de la foi, c'est-à-dire en conformité avec la structure, les grandes structures, les grandes lignes de la foi chrétienne. En tout cas, c'est comme ça que je l'entends. Dans le Nouveau Testament, nous avons déjà des exemples de ce genre de démarche, de structure, de structuration. Nous avons des grands développements thématiques. Un exemple facile, c'est l'Épître aux Romains, avec d'abord un développement sur le péché, un développement sur le salut, sur le rôle du Saint-Esprit. Et on a couvert à peu près les chapitres 1 à 8, et puis ça continue, 9 à 11, avec la place d'Israël, etc. Mais le Nouveau Testament fait parfois aussi des synthèses beaucoup plus courtes. Je vous en propose une, que de la plume de Paul, 1 Timothée 3, verset 16, où il dit qu'il parle de l'Église du Dieu vivant, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Et puis il poursuit sa pensée, disant, et voilà, le mystère de la piété est grand. Et puis il cite ce mystère. Dieu est apparu comme un homme, sa justice a été révélée par l'Esprit, il a été vu par des anges, proclamé parmi les nations, on a cru en lui dans le monde et il a été élevé dans la gloire. Voilà une confession de foi christologique. Alors peut-être chanter, peut-être l'origine est peut-être un cantique, c'est possible aussi. Peut-être la main de Paul, peut-être pas, mais bon, tout ça c'est ouvert à la discussion. Mais le fait est qu'on trouve dans le Nouveau Testament déjà, parfois de longs développements, parfois beaucoup plus courts, de ces synthèses plus ou moins thématiques. Ça m'amène à la troisième expression que je vous propose pour cet après-midi, c'est l'intelligence de la foi. Alors, cette fois-ci, ce n'est pas une expression biblique, c'est moi qui l'ai forgée. L'Écriture parle, par exemple, d'intelligence spirituelle, dans Corinthiens, Paul emploie cela. La théologie et la théologie systématique répond aussi aux besoins de l'être humain de réflexion structurée et ordonnée. Un esprit dans lequel il n'y a que du désordre ne va pas bien fonctionner. Nous avons besoin d'ordre, de voir des choses clairement pour pouvoir aussi agir clairement. J'en parlerai encore après. Lorsque Adam était dans le jardin d'Éden, il ne s'est pas contenté de cultiver la terre, le jardin, de s'occuper de ce dont Dieu l'avait chargé, mais il a aussi fait autre chose. Il a nommé les animaux. Il a donné des noms à tous les animaux. Et ce fait de nommer les animaux est pour moi un indice important du besoin humain de pouvoir désigner des choses, donner des noms. C'est un peu la base de l'activité scientifique pour pouvoir gérer les choses qu'on nomme, pour les mettre en relation les unes avec les autres, pour les ordonner, pour les classer. La théologie systématique essaye de faire cela, d'ordonner les choses de façon cohérente en mettant des noms sur différents éléments. C'est pour ça que les théologiens emploient parfois un vocabulaire qui leur est propre, parce que ça vient du besoin de nommer précisément un certain nombre de concepts pour pouvoir les gérer. L'Écriture nous encourage à faire ce travail de synthèse et d'essayer de comprendre. Rappelons-nous ce que Jésus dit à ses amis, à ses disciples plutôt, qui sont non seulement, dans Jean 15, qui sont non seulement ses serviteurs, ses esclaves, et c'est pour nous un privilège d'être serviteurs et esclaves de Christ, d'exécuter ce qu'il veut bien nous commander. Mais en plus de cela, il dit qu'il nous sommes ses amis parce qu'il nous fait connaître, il dit ça à ses disciples, ce qu'il a appris lui-même du Père. Je pense que réellement on peut dire qu'il est dans la volonté de Dieu que nous comprenions ce qu'il veut nous dire et de façon claire pour nous, de manière à ce que nous avons une claire compréhension de qui il est, qui nous sommes et comment nous devons vivre. Mais le problème est que cette structure organisée de la théologie systématique, nous ne la trouvons pas toute faite dans l'Écriture. Il n'y a pas dans l'Écriture, mais elle n'est même pas, alors peut-être je vais dire plutôt les choses comme ça, la Bible en elle-même n'est pas un traité de théologie systématique. Et franchement, si ça l'était, qu'est-ce que ce serait ennuyeux ? Est-ce que Vous avez déjà lu un livre de théologie systématique ? Est-ce que vous lisez ce genre de littérature comme un roman ? Honnêtement, je préfère lire la Bible telle qu'elle est, avec sa structure propre, ses différents genres littéraires, plutôt qu'un ouvrage de théologie systématique. Mais ça nous encourage nous-mêmes à faire notre synthèse, à rassembler les éléments de vérité que nous trouvons dans l'Écriture, et pour essayer de construire quelque chose qui fait sens pour nous dans notre monde et qui nous donne les orientations dont nous avons besoin. Et de tout temps, l'Église a fait cela. L'Église primitive s'est dotée de credos, qui sont des petits résumés de la foi chrétienne. Elle s'est dotée de didaké, c'est d'autres types de documents qui organisent sa vie. Les théologiens ont écrit des sommes théologiques, Thomas d'Aquin. Des réformateurs ont été à l'origine de confessions de foi, Westminster, La Rochelle, Augsbourg, d'autres encore. On fait des catéchismes pour que ces vérités soient transmises dans le peuple de Dieu, qu'elles ne restent pas que théologiques. Et ce travail théologique s'est continué jusqu'à nos jours. Ça correspond réellement à un besoin humain. Et de fait, cette théologie systématique contribue à, dans notre esprit, à forger une vision du monde. Et l'Écriture met devant nos yeux une vision du monde dans lequel règne un Dieu transcendant, tout-puissant, souverain. Et nous sommes les humains à son service. Il veut notre bien, il veut notre salut. Nous trouvons dans l'Écriture des choses qui nous indiquent comment réfléchir notre activité humaine, sa valeur, ses limites, notre activité scientifique, artistique et tous les autres éléments dont nous avons besoin pour vivre et comprendre le monde dans lequel nous vivons. L'Écriture ne nous propose pas une vision déstructurée, explosée du monde dans lequel nous vivons, mais une vision structurée. La théologie systématique aide à comprendre cette structure et à la mettre en place. Quatrième expression que je propose, c'est la défense de la foi. Alors ça aussi, c'est une expression qui n'est pas biblique. Strictement, l'Écriture emploie plutôt l'expression « défense de l'Évangile ». Notre vision du monde n'est pas unique. Nous ne sommes pas les seuls à imaginer le monde dans lequel nous vivons et à faire des synthèses, à créer des systèmes. Toutes les religions le font. Il y a une vision du monde musulmane, bouddhiste, etc., tout ce qu'on veut. Et puis aujourd'hui, je dirais presque chaque individu fait sa sienne propre à partir de tous les éléments que les médias nous livrent. On prend à droite, on prend à gauche et on s'assemble une petite mixture personnelle qui nous va bien et au fond souvent qui nous arrange. Chacun crée son propre système dans lequel il vit. Entre autres, parce que naturellement, nous ne sommes pas enclins à recevoir la vision du monde telle que Dieu nous la propose. Pour ces fausses visions du monde, Paul emploie une expression, il parle de principes élémentaires du monde, c'est-à-dire ce sont les grandes nervures qui constituent la manière païenne de voir le monde. On trouve ces expressions dans Galates, dans Colossiens, et il les oppose au fait de suivre selon ces principes élémentaires, de vivre selon cela plutôt que de vivre selon Christ. Ce sont les termes qui sont opposés. Les êtres humains sont sans intelligence, même les disciples, c'était un des reproches de Jésus. Paul dira que notre intelligence est plongée dans les ténèbres, qu'elle est aveuglée, obscurcie, ou même notre intelligence est souillée. Nous ne sommes pas capables de recevoir les pensées de Dieu et de les organiser par nous-mêmes. Nous avons besoin que Dieu nous touche, aussi dans notre intelligence, pour cela, pour bien comprendre et bien ordonner ce que nous comprenons de l'Écriture. Alors, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas suffisamment intelligents, ce n'est pas ça le problème, mais ce n'est pas nos capacités intellectuelles qui sont en jeu, mais c'est le fait qu'au fond, nous avons du mal et nous ne voulons pas faire confiance à Dieu et recevoir la vérité de l'Écriture telle qu'il nous la donne. La sagesse biblique s'oppose à la sagesse du monde. Paul parle de forteresse et de raisonnement qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et pourtant, nous avons besoin de ces normes, nous avons besoin de ces références que la théologie nous donne pour corriger notre fausse perception de la vérité révélée dans l'Écriture et aussi dans ce que ça implique pour nous concrètement, pour notre vie. Nous avons besoin de repères pour dépister les principes fondamentaux qui sont du monde et non pas du Christ, et tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu. La théologie systématique a aussi un rôle à jouer dans la défense de la foi pour dire ceci est faux et ceci est vrai, c'est de telle manière que l'Écriture l'enseigne et non pas de telle autre manière. Même si tout le monde pense comme ça, l'Écriture dit autrement. C'est ces vérités-là qui sortent de l'Écriture et non pas telle autre. Même chose est vraie pour la défense de l'Évangile, pour garder sa pureté et sa pertinence, son impact dans le monde dans lequel nous vivons. Tu nous accordes que notre intelligence soit éveillée et renouvelée dans notre compréhension de sa parole. Ceci étant, et ce sera ma dernière remarque pour ce point-ci, il ne faut pas avoir peur de l'erreur. Il ne faut pas nous replier dans notre ghetto évangélique et simplement entre nous dire les vérités que nous croyons vraies et juste dire « oui, mais tous les autres ont tort, nous avons raison, voilà ce que nous comprenons de l'Écriture ». Historiquement, il se trouve que l'erreur et la polémique avec l'erreur a bien des fois été un vecteur pour affiner et affirmer la compréhension de la vérité. Si on regarde, par exemple, les premiers siècles, on se rend compte que les grandes vérités concernant la personne de Christ, son humanité, sa pleine divinité, le fait que les deux natures soient distinctes, sans confusion, sans mélange, mais en une seule personne, eh bien que ces vérités-là se sont établies par les conciles qui se sont suivis, par exemple Nicée, Chalcédoine, mais dans un contexte toujours polémique, de dénonciation d'erreurs, que ce soit celle d'Arius, celle de Nestorius, mais dans un contexte polémique. La vérité s'est affinée dans sa compréhension, dans son affirmation, dans sa formulation, dans le combat contre l'erreur, contre l'hérésie. Carrément, parfois. Je prends un exemple plus contemporain cette fois-ci. On discute beaucoup de la question du genre actuellement, c'est, en tout cas en France, c'est un des thèmes qui est un petit peu récurrent. Je pense que vous connaissez l'essentiel de cette théorie qui dit qu'on ne naît pas homme ou femme, mais qu'on le devient, que le fait d'être homme ou femme est une construction sociologique, c'est un choix personnel, mais que ce n'est pas un donné de départ. La discussion avec les tenants de cette théorie du genre peut même être intéressante pour nous, de notre point de vue, parce que peut-être, dans la discussion, ça nous oblige à revoir notre argumentation, et peut-être serons-nous amenés, c'est une question que je pose, je ne l'affirme pas, à affiner notre construction de la compréhension que nous avons de la masculinité, de la féminité, non pas que la théorie du genre serait vraie, c'est pas ça que je dis, mais dans la discussion, peut-être seront soulignés des éléments que nous n'avons pas trop valorisés et qui pourtant sont vrais, qui sont bibliques. Juste à titre d'exemple. Je dis ça pour ne pas avoir peur justement de la confrontation et de la discussion avec d'autres systèmes de pensée que le nôtre. Cinquième expression, l'obéissance de la foi. Le philosophe
André Comte-Sponville dit que philosopher, c'est penser sa vie et vivre sa pensée. Moi, j'aime bien cela. Alors, si la théologie systématique amène aussi à penser sa vie et à vivre sa pensée, ben, j'en serais pas malheureux. Je trouve que c'est un beau programme. L'Écriture nous encourage absolument à ne pas dissocier ce que nous croyons, notre théologie, de ce que nous vivons. Il faut refuser cette diffraction moderne entre la piété et la vérité. Les deux vont de pair. Je donne deux exemples. Est-ce que je suis encore dans les temps, Pierre ? Oui ? D'accord. Ok. Je ne voudrais pas mordre sur le prochain exposé, vraiment, je m'en voudrais. Je donne rapidement deux exemples. Non seulement notre théologie doit s'incarner, mais la manière dont nous l'incarnons renvoie à ce que nous croyons. Je prends l'exemple de Paul à Tite. Paul donne à Tite toute une série de recommandations, comment les vieillards, chapitre 2, comment les vieillards doivent se comporter, les femmes âgées, les jeunes, etc. Et puis à un moment donné, à la fin de sa liste, il parle des esclaves, et il dit que les esclaves doivent être soumis, honnêtes, dignes de confiance, etc. Il donne un certain nombre d'éléments qui doivent caractériser la vie, l'attitude d'un esclave. Et pourquoi cela ? Eh bien, sa phrase continue. Afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. En d'autres termes, la manière dont l'esclave va se comporter va renvoyer pour tous ceux qui le voient vivre à la doctrine, à l'enseignement de Dieu. C'est évident que les gens qui nous voient vivre se font une idée de du christianisme en nous observant. Le christianisme, c'est la théorie de notre pratique. C'est comme ça que les gens le voient. Un autre exemple dans l'autre sens. Est-ce que vous croyez à la résurrection personnelle, corporelle ? J'espère que oui. Quand même. C'est une fausse question. Qu'est-ce que ça change ? Est-ce que ce point de doctrine change concrètement quelque chose dans la vie ? Pour Paul, oui. Dans son chapitre 15 de sa première lettre aux Corinthiens, il y a tout un développement sur la résurrection. Et à un moment donné, au verset 32, il cite « Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons. Demain, nous mourrons. » C'est une option. C'est un point de théologie, la résurrection des corps. Mais ne pas y croire change la vie, on profite, il n'y a rien après. Mais croire en la résurrection des morts, pour Paul, change beaucoup. Parce que, et si vous lisez le contexte de l'affirmation, vous verrez que c'est pour lui une des raisons pourquoi il se donne à fond dans son ministère. À cause de la résurrection. Il y a une résurrection. Et c'est pour cela que je suis prêt à donner ma vie dans le ministère pour le service du Seigneur. Sixième et dernière expression, l'unité de la foi. Alors cette fois-ci, c'est de nouveau une expression biblique qu'on trouve dans la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4. Ça sera en même temps ma conclusion. Paul, dans le contexte, cite les ministères d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, pasteurs, docteurs. Et il dit que ces ministères doivent servir au perfectionnement des saints, à l'équipement des saints pour le service. Et pour que tout cela en vienne à la maturité des croyants, de l'Église, à la stature parfaite de Christ. Et dit-il, une des choses qui va accompagner cette mise en œuvre des ministères, c'est l'unité de la foi. J'entends par là que les chrétiens vont adhérer d'une façon unie à un ensemble de choses qu'ils vont croire comme étant vraies et qui vont diriger ce qu'ils croient
et leur pratique. Et dans ce sens, l'Église a besoin de la théologie pour développer cette unité de la foi, à partir d'une bonne intelligence de la foi, pour pouvoir défendre sa foi dans un monde qui a d'autres visions du monde, qui a d'autres manières de croire, et pour que sa pratique, à la fois communautaire et personnelle, soit réellement en adéquation avec ce que Dieu veut pour nous. Et puis, on peut peut-être ajouter une toute petite note critique, si vous me permettez. Si l'Église a parfois, ou a parfois, devrait de façon générale, être plus soucieuse de théologie, parfois aussi, les théologiens devraient être plus soucieux de l'Église et être plus à son écoute. Quelles sont vraiment les questions que l'Église pose, avec quoi elle se bat et comment on peut aider à équiper l'Église pour son travail théologique et d'équipement des croyants. Quelqu'un a une fois défini la théologie de cette manière en disant que la théologie, c'est le fait de répondre aux questions que personne ne pose. Ce n'est pas très encourageant. Donc, pour que cela cesse, peut-être, on doit trouver des réflexes parfois un petit peu différents. Mon dernier mot, et je conclue avec Paul, toujours dans ce chapitre 4 d'Éphésiens, lorsque cette unité de la foi se développe et lorsque le corps de Christ grandit, eh bien Paul dit la chose suivante, « Nous ne serons plus ballottés et emportés à tout vent de doctrine. » C'est notre but, ne plus être emportés et ballottés à tout vent de doctrine. « Mais, en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, le Christ. » Plaise à Dieu que la théologie de plus en plus nous équipe pour dire la vérité dans l'amour, pour grandir vers la tête, vers le Christ, et que lui soit glorifié. Merci d'autre écoute, et je passe tout de suite la parole à James pour la deuxième partie.
Merci. Je suis chargé de dire que si vous avez des questions, vous pouvez les communiquer par SMS 00 33 6 79 79 82 59 48 ou bien par email question@evangile21.org. La théologie biblique, pourquoi est-elle importante et inspirante? Cléopas et son compagnon se trouvent en compagnie de Jésus sur le chemin d'Emmaüs, Luc 24. Jésus explique comment les Écritures, l'Ancien Testament, trouvent leur accomplissement en lui, en Jésus, le Christ crucifié et ressuscité. Plus tard, Cléopas et son compagnon se disent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin ?» et nous ouvrez le sens des Écritures. Mon but est de vous donner le goût de la théologie biblique ou de renforcer le goût que vous avez déjà. Et pour ce faire, je vise à répondre donc à cette double question. Pourquoi la théologie biblique est-elle d'un côté importante et d'un autre côté inspirante ou passionnante? Il ne s'agira forcément que d'une mise en appétit, mais j'ai prié afin que nos réflexions dans ce domaine soient stimulées de façon bibliquement saine et que nous soyons motivés à approfondir l'étude de la parole de Dieu dans la perspective de la théologie biblique. Je présuppose que vous avez sous les yeux le plan de cette intervention. Il y a beaucoup de références bibliques que je ne vais pas citer, mais qui sont sur ce plan. Je vous rappelle la définition que j'emploie pour la théologie biblique, la théologie du déroulement de l'histoire du salut telle qu'elle émerge d'une lecture inductive et progressive des livres bibliques dans leur ordre canonique. Premier volet donc, pourquoi la théologie biblique est-elle importante? D'abord, la théologie biblique est pratiquée par la Bible elle-même. Nous le constaterons surtout demain dans Galates 3. Je vous invite à être sur le qui-vive pour ce qui sera dit demain concernant les rapports entre les alliances abrahamiques et sinaïtiques, entre les promesses faites à Abraham et la loi de Moïse. Il ne nous suffit pas de nous pencher sur des réalités bibliques d'un point de vue systématique, aussi importante que soit la doctrine. Le Nouveau Testament met en évidence l'importance de suivre la trame du déroulement de l'histoire de la rédemption. Il en est de même de l'Ancien Testament. La prédication de Jésus, d'Étienne et de Paul illustre cette sensibilité à l'histoire dont le Christ est le point culminant. Je vous renvoie au canevas pour les références. C'est la palissade de dire que la Bible elle-même, conçue dans sa globalité, se présente sous forme de théologie biblique, sous forme de révélation qui commence par la Genèse et qui se termine par l'Apocalypse, cet ordre canonique n'étant pas aléatoire. Mais je suggère qu'on respecte l'agencement hébraïque de l'Ancien Testament, loi, prophète, écrit, même si majoritairement nos traductions françaises ne le suivent pas. J'ai inclus dans l'appendice du canevas pour cet exposé, la disposition hébraïque de l'Ancien Testament. Il semble établi dès le deuxième siècle avant Jésus-Christ et reflète également dans l'enseignement de Jésus lui-même. L'ordonnancement en question est moins chronologique que celle de la Septante, donc celle aussi de nos traductions, la plupart de nos traductions en français, mais justement plus biblico-théologique. Il est en particulier à noter que la dernière partie de l'Ancien Testament, les Écrits, commence et se termine par des livres qui, eux, se déroulent de façon biblico-théologique. Les psaumes au début et les chroniques à la fin correspondent à des survols de l'Ancien Testament qui balisent le chemin du Messie à venir. Deuxièmement, l'Évangile est indissociable de l'histoire. Dans nos milieux, dans un souci louable d'appliquer l'Ancien Testament aux chrétiens, on a souvent tendance à pratiquer l'allégorisation et le subjectivisme, tendance à nous assimiler à mauvais escient aux personnages et aux événements de l'Ancien Testament. Exemple, Josué 6. Jéricho représente Dieu, les murailles de Jéricho représentent Satan, les Israélites de l'époque, c'est nous croyants d'aujourd'hui, et notre devoir est de faire la percée dans la prière. Alors, vous avez compris que je n'ai rien contre la prière, ni contre la guerre spirituelle, ni contre l'idée que des personnages bibliques de l'Ancien Testament peuvent parfois revêtir une certaine exemplarité pour nous. Mais une telle lecture allégorisante est arbitraire et nous incombe de respecter et de valoriser le caractère historique de tels récits. En effet, il est nécessaire à notre salut face à la colère à venir que Jésus soit un personnage historique, un être humain, le dernier Adam, bien plus qu'il soit un juif provenant de la lignée d'Abraham et de David. Cultiver des fibres en matière de théologie biblique promeut une appréciation du caractère historique du plan salvateur de Dieu et sert donc de garde-fou contre l'allégorisation et le subjectivisme dans l'interprétation de tel ou tel récit. Elle nous permet d'avoir pour réflexe de penser prioritairement en termes de là où nous nous situons dans le plan de Dieu, ainsi qu'en termes de typologie, sans pour autant négliger une valeur exemplaire que le récit peut renfermer. Cela m'amène à une troisième raison connexe, mais plus large. De façon plus générale, la théologie biblique joue un rôle clé dans la démarche de dispenser avec droiture la parole de la vérité de Timothée 2,15. La semaine passée, j'ai posé à des étudiants à l'Institut belge cette question. Pourquoi, pour vous, la théologie biblique est-elle importante? Et cette réponse a figuré grandement. La théologie biblique pourvoit au point de repère permettant d'enseigner l'Ancien Testament avec assurance. D'autres outils sont bien entendu nécessaires, des compétences en matière d'exégèse et de doctrine, et je veux dire amen à ce que Roland Frawley a dit tout à l'heure concernant l'interfécondation des disciplines. Mais la théologie biblique est d'une portée considérable dans notre recherche d'équipement nous permettant d'enseigner le Christ à partir de l'Ancien Testament et d'appliquer l'Ancien Testament avec sécurité. Elle sert donc de garde-fou contre le marcionnisme pratique, contre la tendance à négliger l'Ancien Testament, peut-être tout simplement du fait d'en avoir peur, souvent dans nos milieux. Comme le fait remarquer Peter Adam, les prédicateurs pratiquent toujours une forme de théologie biblique, bonne ou mauvaise. Lorsqu'on prêche sur un texte, soit on tient compte du contexte large du plan salvateur de Dieu, soit non. Exemple qui fait écho à une remarque d'Henri Blochet de ce matin, Deutéronome 8, 18, « C'est lui qui te donne les forces pour produire la richesse. » La théologie systématique va nous permettre de comprendre qu'on ne peut pas se servir de ce texte pour légitimer la théologie de la prospérité. La théologie biblique va nous permettre de comprendre pourquoi et d'enseigner ce texte dans le cadre de l'alliance du Sinaï et de faire la transition de façon appropriée à la nouvelle alliance. Quatrièmement, à mesure qu'une vision du monde biblique devient étrangère à nos sociétés occidentales, il est important de remettre en place la charpente de la théologie biblique à la fois en faveur des croyants et dans la perspective de l'évangélisation. Il y a un demi-siècle, nous aurions pu présupposer la vision du monde judéo-chrétienne dans notre évangélisation en Europe francophone. Plus maintenant, ces jours-ci, il nous faut présenter les éléments clés de cette vision, ce qui implique une présentation de la trame biblique création, chute, rédemption. Dans des cultures qui s'opposent au méta-récit, il faut en effet commencer au début de la Genèse. Dieu a créé l'univers tout entier. Nous, êtres humains, créés en image de Dieu, est redevable et responsable envers notre Créateur, nous avons cherché à usurper son rang. Les conséquences de cette rébellion sont graves. Faute de prendre en considération les premiers chapitres des Écritures, notre optique sur plusieurs doctrines fondamentales risque d'être faussée. La création, l'humanité, le péché, les attributs de Dieu. Le problème fondamental auquel Jésus répond n'est pas mon manque de bonheur dans le présent, ni mon manque de santé, ni mon manque de situation, ni mon manque d'argent, ni ma solitude, mais mon rejet de l'autorité de Dieu. Le problème fondamental n'est pas la pauvreté dans le monde, ni l'injustice, ni des problèmes écologiques, ni la mondialisation, ni l'instabilité géopolitique, mais la colère de Dieu qu'entraîne le péché. L'Évangile est en jeu. Cinquièmement, pour un grand nombre de questions pratiques, éthiques et pastorales, souvent controversées dans nos milieux, notre prise de position dépend principalement ou en grande partie de la théologie biblique. Et je me contente d'attirer votre attention sur la liste qui se trouve dans le canevas. On peut ainsi passer à notre deuxième volet et en répondre à la question « Pourquoi la théologie biblique est-elle importante ?» Maintenant, notre deuxième partie « Pourquoi la théologie biblique est-elle inspirante ou passionnante ?» D'abord, la tension que la théologie biblique comporte. Dans un sens, il est possible de respecter la trame dont j'ai parlé tout à l'heure, la trame de base, création, chute, rédemption, consommation, tout en sautant depuis Genèse 12 jusqu'à Matthieu 1. On pourrait même raisonner ainsi, Genèse 12, la promesse faite à Abraham, correspond à l'Évangile. L'Évangile annoncé par avance, comme l'affirme Galates 3:8. Mais justement, il est annoncé par avance. Afin d'apprécier l'Évangile à sa juste mesure, il est important de faire justice aux contours de l'histoire du salut. Le désir de vouloir passer rapidement au Christ est tout à fait compréhensible, mais du fait d'omettre de grands pans de l'Ancien Testament, on risque d'embrasser une compréhension du Christ qui est superficielle, voire tronquée. Le DVD Espoir, que vous connaissez peut-être, vise à présenter un survol de la Bible. C'est un beau projet et bien réalisé. Il s'agit du, je cite, « tour de la Bible en 80 minutes ». Mais il passe depuis Exode 20 jusqu'à la fin de l'Ancien Testament en 4 minutes seulement. Ou encore, un organisme lance le défi de parcourir la Bible en 100 textes essentiels. Je suis favorable à ce genre de défi. Et sur le principe, je voudrais soutenir tout projet destiné à promouvoir la lecture des Écritures. Mais je suis préoccupé par le manque d'équilibre dans le choix des textes. 50% de la Genèse est couvert par ce programme, 43% de l'Exode, rien dans le reste du Pentateuque, 27% des prophètes antérieurs, seulement 6% des prophètes postérieurs et seulement 4% des écrits. Que nous, lecteurs, nous exposions à chaque partie des Écritures et que nous laissions frustrés par les tensions qu'implique le fait d'attendre les 1500 ans entre Moïse et Jésus, par le cycle inlassablement répété de péché, de jugement, de grâce, par l'articulation entre des promesses divines non assorties de conditions et la conditionnalité qu'implique la nécessité d'obéir à la loi, par la bonté et la sévérité de Dieu, sa bienveillance, sa compassion, son amour et sa sainteté, ses exigences, sa justice. Ces frustrations sont le fruit du génie de la pédagogie divine et sont destinées à nous pousser en avant dans la révélation, à nous donner de désirer ardemment une résolution aux tensions en question, à nous permettre d'apprécier la personne et l'œuvre du Christ. Un exemple du genre de tension que nous pouvons expérimenter au moment du retour de l'exil, alors que le lecteur se sent en droit de s'attendre à la mise sur pied d'une nouvelle alliance conformément aux promesses grandioses chez les prophètes. On découvre que les Israélites se retrouvent dans le cadre de l'ancienne alliance et on se demande, mais où est l'intervention chirurgicale du cœur promise par Ézéchiel, par exemple? Certes, on peut parler d'un nouveau départ dans Esdras-Néhémie avec un nouvel engagement pris en Néhémie 10, mais point par point, cet engagement est rompu en Néhémie 13 et c'est ainsi que le livre se termine. Henri Blocher parle de la pédagogie de l'échec qui renvoie au Christ. On est propulsé vers la solution qui se trouve en lui. En fait, Zacharie, prophète post-exilique, annonce par implication que l'exil est encore en cours. Il annonce en effet que le nouvel exode lui-même doit encore survenir. Ce nouvel exode, au sens le plus profond, est à situer en Christ. Deuxièmement, la transparence grandissante que la théologie biblique fait ressortir. La révélation biblique est progressive et on comprend la splendeur de l'évangile du Christ, d'autant plus qu'on le conçoit sur l'arrière-fond de ses formes moins transparentes dans l'Ancien Testament. Là où telle ou telle idée paraît d'abord floue ou en filigrane, on apprécie la clarté qui est apportée par la suite, car un élément de comparaison entre en jeu. La métaphore qu'emploie Calvin est celle de la lumière. Il explique que cette lumière devient de plus en plus grande, de plus en plus brillante à mesure que l'on avance au travers de l'Ancien Testament. L'Évangile s'y dégage petit à petit, en commençant par ce qu'il appelle les petites étincelles allumées dans la Genèse. La lumière augmente de jour en jour, suggère Calvin, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ, qui est le soleil de justice, fasse évanouir toute nuée. Fin de citation. Avec Jésus, nous jouissons de la clarté brillante parfaite du message biblique. Et cette illustration est en adéquation avec ce que le Nouveau Testament lui-même affirme. À coup sûr, l'Ancien Testament prévoit que, je cite, « le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations. » Luc 24. Toujours est-il qu'il convient de parler d'une mise en lumière quant à la révélation du mystère de l'Évangile qui est apporté par la première venue du Christ, Éphésiens 3, Romains 16. Selon l'apôtre Pierre, les prophètes pouvaient, grâce au Saint-Esprit, attester les futures souffrances du Christ et la gloire qui allait s'en suivre, mais les précisions quant à l'époque et aux circonstances, ou peut-être difficile de savoir exactement comment interpréter cela, peut-être quant à la personne et au moment, ces éléments leur étaient cachés. 1 Pierre 1, versets 10 à 12. Nous, croyants, qui nous situons à l'époque actuelle de l'histoire du salut, nous sommes privilégié. Et cela au regard du dévoilement progressif de la révélation, car nous possédons la clé herméneutique de l'Ancien Testament, qu'est le Christ. Nous sommes en effet même plus privilégiés à cet égard que Jean-Baptiste, Matthieu 11, 11. Selon les termes de notre Seigneur, beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Troisièmement, la typologie que la théologie biblique renferme. La théologie biblique nous sensibilise aux structures, types, nous permettant plus aisément d'apprécier le Christ à sa juste valeur. Qu'il y ait similitude entre l'ombre et la réalité est bien appréciée. Mais soyons aussi sensibles au point de divergence. On peut parler de typologie à l'inverse. La série télévisée à la Maison Blanche, The West Wing, présente un personnage, le président Bartlett, qui est une sorte d'anti-Bush. Nous sommes censés, me semble-t-il, dresser des parallèles entre George W. Bush et Jed Bartlett. Mais alors que l'un est évangélique, l'autre est catholique, alors que l'un est républicain, l'autre est démocrate, alors que l'un est considéré comme étant un peu intellectuel, l'autre est une encyclopédie de connaissances. Et de façon à certains égards analogue, nous trouvons en Christ un anti-Cyrus et un anti-Jonas. Je suis en dette envers Sylvain Rombrowski pour certaines de ses convictions. Les parallèles sont clairs, les distinctions aussi. Et la raison pour laquelle la typologie à l'inverse doit aller de pair avec la typologie directe, c'est que dans l'antitype qu'est le Christ, on monte d'un cran, on gravite un échelon, on laisse de côté ce qui est temporaire, partiel, ambigu, en faveur de la réalité grandiose, ultime et performante. Par exemple, dans le cadre de l'Ancienne Alliance, il fallait présenter sans cesse des sacrifices à la suite d'actes pécheurs, et certains actes, dont le meurtre et l'adultère, semble-t-il, étaient tellement graves qu'ils ne pouvaient donner lieu à un sacrifice. En revanche, l'unique sacrifice du Christ, offert une fois pour toutes, correspond à la solution efficace et définitive pour toutes sortes de péchés commis. Hébreux 8 à 10. De même, alors que l'intercession de Moïse n'était que partiellement et temporairement efficace à titre de réponse à la colère de Dieu face aux péchés des Israélites, celle du Christ est totalement et définitivement efficace, l'intercesseur lui-même n'étant pas affecté par le problème du péché. En effet, le caractère performant de la nouvelle alliance pour le salut tient, entre autres, de la convergence en une seule personne des rôles de roi et de prêtre, Hébreux 7, idée tout à fait étrangère à l'ancien régime, comme l'a découvert le roi Osias, dont la tentative de combiner ces deux rôles a amené une maladie de la peau et la fin de son règne effectif de Chronique 26. Quatrièmement, dernière raison de considérer que d'expliquer le caractère passionnant, inspirant de la théologie biblique, la transformation que la théologie biblique inspire chez le croyant. La théologie biblique est transformatrice parce que l'Évangile est transformateur. Et l'Évangile est compris dans toute sa splendeur lorsqu'il est présenté sous forme de théologie biblique, selon laquelle on tient bien compte de la tension, de la transparence grandissante de la typologie. Il me semble que l'expérience chez Cléopas et son compagnon est normative. Nous aussi, nous pouvons trouver que notre cœur brûle au-dedans de nous, alors que nous commençons à saisir la sagesse et la cohérence du plan de Dieu, à voir le tableau en grand, à nous laisser bouleverser par le panorama, à nous couper le souffle de la révélation biblique. Elle est transformatrice parce qu'elle braque les projecteurs sur le Christ par opposition à l'anthropocentrisme qui nous guette. Elle est transformatrice parce qu'elle nous permet de reconnaître notre statut de privilégié sous la nouvelle alliance. Et cela fait partie de la dynamique de la transformation qu'opère le Saint-Esprit, si j'ai bien compris 2 Corinthiens 3. Elle est motivante pour l'évangélisation parce que le mouvement centrifuge vers les nations se détache sur le mouvement centripète propre à un régime révolu, l'ancienne alliance. Elle est motivante pour la sanctification, parce qu'elle permet de comprendre notre place dans le plan de Dieu et de garder nos yeux rivés sur l'état final, qu'est le nouveau cosmos. Nous prions plus aisément. Viens, Seigneur Jésus. Conclusion. J'espère avoir stimulé vos réflexions dans ce domaine. Si vous souhaitez aller plus loin, profitez de la bibliographie indiquée donc en ligne, en appendice. Si vous commencez à prendre goût à la théologie biblique, je vous renvoie particulièrement à la première liste. Si vous êtes motivé pour approfondir vos connaissances en matière de théologie biblique qui a déjà acquise, peut-être pourriez-vous bénéficier de la seconde liste. Il s'agit dans la théologie biblique de lire les Écritures sous la forme selon laquelle elles se présentent. La Bible n'est pas un simple manuel qu'on consulte dans certains endroits pour régler des problèmes. La théologie biblique est importante parce qu'elle est indispensable à une approche adéquate des Écritures et à une bonne interprétation des Écritures. Elle est importante parce qu'elle est indispensable à une compréhension claire et profonde de l'Évangile. Elle est inspirante parce qu'elle octroie cette compréhension réjouissante de l'Évangile de par la dynamique de la tension, de la transparence grandissante et de la typologie. Et elle sert à transfigurer le croyant davantage à l'image du Christ pour la gloire de Dieu. Merci de votre attention.